Michel Baillet vous présente les rendez-vous des colibris.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des colibris, consacré à l'environnement, à la biodiversité, à leur protection et à leur connaissance. Notre invité d'aujourd'hui est par définition un homme sage. Il consacre sa passion et son engagement à l'administration, à la promotion et à la pratique de la pêche sur les berges de nos fleuves, de nos ruisseaux et de nos plans d'eau vauclusiens. Pour nous parler de son rôle, de ses responsabilités et de ses actions, nous recevons M. Alain Liados, président de l'association Les Pêcheurs du Comtat-Venaissin. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir. Et tout d'abord, je vais vous poser la question qui me turlupine depuis un bon moment. Ce sigle AAPPMA, expliquez-le-moi.
Alors, AAPPMA, c'est Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Autrement dit, en quelques lettres, tout est dit, Monsieur le Président, c'est parfait cela. Eh bien, écoutez, si vous voulez, dans une première partie de notre entretien, nous allons justement nous intéresser au domaine vauclusien ouvert à la pêche. Quels sont les fleuves, les étangs, les plans d'eau dans lesquels nos pêcheurs peuvent donner libre cours à leurs loisirs et surtout, comment est organisée la pêche dans notre département?
Alors, la pêche du département est gérée au niveau départemental par la Fédération départementale de la pêche. Ensuite, nous avons une vingtaine d'associations AAPPMA sur le Vaucluse et des amicales qui prennent le relais dans chaque commune. Voilà, en ce qui concerne Carpentras, puisque je suis le président de l'amicale des pêcheurs du Comtat-Venaissin, je gère trois amicales, l'amicale des pêcheurs de Mazan, de Baume-les-Venise et de Monteux-Alten.
Très bien, quel est le domaine ouvert à la pêche dans le département de Vaucluse
en ce qui concerne,
est important.
Oui, en ce qui concerne mon APPMA, si je peux dire comme ça, on gère comme rivière le Brégou, le Med, l'Ozon, une partie de la Sorgue, plus quelques petites rivières comme la Salette, il y a la Mérette, la Sorguette, la Grande Levade, ce qui correspond à un territoire assez important. Et nous avons en gestion actuellement trois lacs, le lac de Mounieux, le lac de Mormoiron, dit le lac des Salettes, et le lac de Beaulieu, dit lac de Monteux.
Donc, voilà. Beaucoup de possibilités.
Possibilités de pêche sur le Comtat-Venaissin.
Et pour pouvoir y trouver du plaisir. D'ailleurs, je me suis un petit peu informé sur ce qu'était la capacité piscicole du département de Vaucluse, et j'ai été surpris de voir que le département de Vaucluse, c'est 2600 km de cours d'eau,
oui,
et 400 rivières classées pour la pêche, et oui, 700 hectares de plans d'eau, de lacs et d'étangs. Oui. Donc, il y a de quoi faire. Dites-moi, toute cette organisation se déroule en quel endroit? Vous avez une fédération?
On a une fédération qui est située à l'Isle-sur-la-Sorgue, qui gère le département et les plans d'eau. Cette fédération comprend actuellement, en 2021, puisque les chiffres sont fluctuants en fonction des années, elle gère 13 000, approximativement, 13 000 pêcheurs sur l'ensemble du département. Et les cours d'eau sont classés en première catégorie, deuxième catégorie.
Ah, expliquez-nous cela. Qu'est-ce que c'est que ces catégories des cours d'eau?
En principe, les premières catégories, c'est les catégories où il y a, par principe, le poisson le plus noble, c'est la truite. Et les cours d'eau de deuxième catégorie, en gros, c'est le reste, c'est-à-dire les carnassiers, le brochet, le cendre, le black bass et les perches. Mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a d'autres critères, la qualité des eaux, enfin, tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte, comme pour le climat, c'est exactement la même chose. Voilà.
Et donc, le rôle de la fédération auprès des associations comme la vôtre, comment se détermine-t-il ?
L'association procède à la surveillance halieutique des cours d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance de toutes les frayères entruites du département. Elle installe des frayères artificielles aussi en ce qui concerne les lacs. Donc nous avons un avantage, nous avons installé des frayères cette année au lac de Monteux et au lac de Mormoiron pour ce qui concerne les cendres et les brochets et le black bass. Plus d'autres cours d'eau, d'autres points du département, enfin, moi, je ne concerne que...
Mais bien sûr.
Voilà.
Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de l'information. Comment ça marche, pourquoi, où cela, etc. Je crois que vous avez un site internet pour répondre à ces questions.
Oui, nous avons créé un site internet. Enfin, il faut le mettre en route parce que bon, il y a eu une nouvelle équipe qui s'est mise en place pour 1er janvier 2022. Et bon, bien entendu, maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la communication. Donc, on essaye de faire fonctionner un site hein, qui se trouve à APPMA Carpentras. Voilà, et vous trouverez des indications.
Très bien. Voilà. Je retiens de votre intervention, Larimé, qu'il y a une nouvelle équipe qui se met en route. Dites-moi, oui, comment ça fonctionne. Il y a de la démocratie au sein de la Fédération de la pêche, voilà, et des pêcheurs.
Voilà, alors en principe, tous les 5 ans à peu près, comme les élections présidentielles, les pêcheurs se réunissent, enfin se réunissent une partie des pêcheurs, parce que quand je vois que en ce qui concerne les contacts des Vénéciens, les pêcheurs du canton vénécien, nous avons 1600 permis de prix de différentes catégories et on se retrouve royalement une trentaine le jour des assemblées générales.
Vous n'allez pas nous confirmer cette légende à laquelle moi je ne veux pas adhérer. On dit que les pêcheurs à la ligne sont les abstentionnistes. C'est pas possible,
non.
Ça.
Non, mais je sais pas. C'est-à-dire que c'est un problème de... Je pense que c'est surtout un problème de bénévolat, c'est-à-dire que, bon, toujours pareil, pour être bénévole, il faut être à la retraite. Et malheureusement, les retraités, ils ont tous des problèmes de santé plus ou moins au bout d'un certain temps.
Ah. Mais la pêche, ça conserve, non ?
Oh oui, la pêche, ça dépend de ce qu'on pêche, mais enfin, oui, ça conserve. Ça permet de marcher, de faire un peu de sport, d'exercice.
Bien sûr. Et dans notre département, on ne manque pas d'occasion, justement, de pratiquer.
Oui,
dites-moi,
oui.
Votre association, quel territoire ça couvre exactement ? Vous nous avez indiqué le nombre de rivières et tout, c'est quoi ? C'est
alors, le secteur on a du... les communes, donc on a Alten, Monteux, en gros, les grosses, hein, parce qu'après, il y en a Alten, Monteux, Carpentras, Baume, Aubignan, Mazan, et on monte pratiquement jusqu'à Sceaux.
Et vous avez des contacts avec toutes ces communes et tout ?
Pas pour le moment, il faut se mettre en route. Et oui, parce que vous savez qu'il faut des autorisations administratives, et tant qu'on n'a pas la bénédiction, eh bien, on ne peut rien faire.
Et je pense que les pêcheurs, vos adhérents, sont bien informés de tout ce que sont leurs responsabilités, évidemment. Nous en parlerons un peu plus tard dans notre entretien, puisque je sais qu'il y a toute une réglementation qui est mise en place.
Oui.
Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de première catégorie, deuxième catégorie, qui est-ce qui définit ces règles ?
Il y a des arrêtés ministériels qui définissent les différentes catégories, qui fonctionne de tout un tas de critères.
Et vous êtes en contact avec les services préfectoraux, je suppose ?
Pas la PPMA, mais la Fédération de Vaucluse est en contact avec les services préfectoraux. L'DT, je crois, c'est la direction territoriale pour ce qui concerne, disons, la pêche et l'environnement en même temps.
Donc ça signifie que la pêche à la ligne, la pêche... Je dis la pêche à la ligne. Est-ce que c'est exact ? Parce qu'il y a différentes techniques, je suppose, à pratiquer selon la variété de poissons recherchés et selon le type de rivière et de cours d'eau ou de plan d'eau sur lequel l'activité se déroule. Expliquez-nous ça un petit peu sur le plan technique, matériel. Là.
Alors, la première pêche, il y a différentes techniques. La première pêche, il y a la pêche au bouchon, c'est-à-dire le bouchon, un plomb et un hameçon, en fonction de la hauteur, courir le bouchon dans l'eau. Après, il y a la technique du toc, c'est-à-dire c'est un tout petit plomb, on la voit dans la rivière, et avec le courant, le petit plomb retire, le petit plomb fait un bond, et pour pêcher la truite, bien entendu. Après, il y a la cuillère. La cuillère, c'est un truc qui tourne autour d'un trident. Et après, il y a la pêche au leurre artificielle. Après, il y a la pêche aux poissons vivants. Alors, pour les truites, c'est des verrons. Pour pêcher le brochet, c'est des petits cabots. Enfin, il y a tout un tas de techniques. Voilà. Et puis après, il y a des techniques qui sont prohibées, notamment le filet, l'épuisette, et ainsi de suite.
Dites, puisque je vous ai sous le micro, là, vous avez commencé à pêcher à quel âge, vous, monsieur le président ?
J'ai dû commencer à 7-8 ans, à peu près.
Ah !
À la mer, hein, à la mer.
Ah, vous pêchez en mer ?
À mer, eh oui, je ne suis pas originaire de la région.
Ah ben c'est pas un reproche, vous savez, on vous accueille avec plaisir, on est content de vous avoir devant nous.
Oui, oui, mais chaque région a ses techniques de pêche et ses appellations de poissons.
Alors dites-nous, d'où, quelle région étiez-vous ?
Béziers.
Ah, Béziers, vous.
Donc, non,
c'est pas éloigné.
Non, c'est pas tellement éloigné, mais...
Donc vous étiez un languedocien.
Alors,
peut-être alliez-vous pêcher dans l'Orbe à Béziers, non ?
Oui, l'Orbe, oui.
Ah.
Oui, à l'époque.
Le département de l'Hérault, quand même, avait des ressources aussi piscicoles, hein, entre l'Orbe et l'Aude.
Non, il y a l'Orbe, l'Hérault et l'Aude. On était à Béziers, on était à cheval sur les trois fleuves, là. Les trois fleuves côtiers, plus un quatrième qu'on oublie, c'est le Libron. Petit fleuve côtier.
D'accord. Et vous étiez à 7 ans, vous étiez quoi, amateur de la pêche au bouchon ?
Ah, bouchon, oui, dans l'Orbe, on pêchait au bouchon, au pied du pont canal.
Et qu'est-ce que vous rameniez comme friture à l'époque ?
Ah oui, vous ne rameniez rien à la maison, pêchiez pour le plaisir, les ablettes et les cabots.
Donc vous n'étiez pas un pêcheur consommateur, mais simplement, on va dire, un pêcheur sportif.
Après, quand on allait à la mer, on ramenait le poisson, les petits loups qui sont interdits de pêcher, les plis, des soles, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Des gascons, alors le sévereau, des rougets aussi, on pêchait à l'époque, des plis, des turbots.
Et vous avez
et des iragnes.
Ah, très bien, et vous avez retrouvé ce plaisir de l'enfance à l'âge adulte et peut-être à l'âge retraité dans le Vaucluse.
Ah oui, à la retraite, parce qu'avant, mes activités professionnelles ne permettaient pas de consacrer à la pêche. Vous savez, quand on est 365 jours par an à la disposition d'un service, c'est pas évident de trouver du temps.
Bon, eh bien, je sais qu'aujourd'hui, vous vous rattrapez. Écoutez, nous allons poursuivre notre entretien dans quelques minutes et partager un petit moment musical.
So never mind what you're looking for.
Vous écoutez les rendez-vous des colibris avec Michel Baillet.
Eh bien, nous retrouvons donc Alain Liados, le président de l'association Les Pêcheurs du Comte-Avesnin. Après évoquer avec lui pas mal de généralités sur le département de Vaucluse et les capacités piscicoles qu'il offre, son organisation, sa représentativité, son nombre d'adhérents, nous allons rentrer dans le détail, vous voulez bien, monsieur le président, pour ensemble découvrir quelles sont les missions principales appliquée par votre fédération et vos associations localement. Moi, j'ai retenu des mots qui me paraissent extrêmement importants. Nettoyage, protection, gestion, promotion, animation. Je me rends compte que vous ne manquez pas de projets, d'objectifs et d'activités. Alors, si vous voulez, on va les prendre les uns après les autres. Tout d'abord, la protection des milieux aquatiques, évidemment, pour Écolibri, on ne peut pas parler autre chose, étant donné notre intérêt pour l'environnement. Qu'en est-il de votre rôle à ce sujet ?
Alors, au point de vue environnement, on fait au moins 3 fois par an du nettoyage du bord des rivières. La première se situe au mois de février. Bon, la date varie en fonction des années. Ce qui concerne l'ensemble des fédérations de pêche, c'est la journée nationale du nettoyage par les pêcheurs, qui est située au mois de février. Après, il y a une association qui s'appelle les Chevaliers de l'Onde, qui effectue aussi le nettoyage, mais de la sorgue uniquement. Et cette journée se passera le 4 juin de cette année. Et après, il y a la journée mondiale du nettoyage de la planète, au mois de septembre, à laquelle nous participons. Ça, c'est le premier volet nettoyage. Après, le deuxième volet, c'est que chaque pêcheur surveille la rivière et permet de faire remonter des informations concernant les pollutions que les rivières subissent.
Quelles sont-elles, ces pollutions ?
Les pollutions les plus importantes, c'est les gens qui sont à proximité de cours d'eau, qui vidangent leurs piscines dans les rivières. Et il faut savoir que le poisson n'aime pas trop le chlore, voilà.
On imagine. Une drôle de recette, ça, hein.
Mais il y a d'autres types de pollution qui surviennent, soit par les stations d'épuration, soit par les débordements des égouts, et ainsi de suite, et qui entraînent, bien entendu, des décès dans le milieu halieutique.
Donc, je retiens de votre développement, là, à la seconde, que vous avez, les pêcheurs ont un rôle très important. D'abord un rôle réglementaire, et puis de participation avec tous les acteurs de la protection de l'environnement que vous nous avez cités, mais aussi sur le plan de l'alerte, chaque pêcheur, sur son territoire d'activité, voilà. S'il repère un problème quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il fait ? Il le signale ?
Il le signale, et en fonction du problème, c'est normalement la fédération qui intervient, en attendant que nous ayons nos gardes particuliers pour les petits problèmes de pêche, du genre les pêcheurs qui pêchent plus que les quantités autorisées de poissons, ou qui pêchent avec des techniques interdites. Donc, on aura des gardes-pêche particuliers.
Oui, nous en parlerons des gardes-pêche tout à l'heure.
Voilà. Oui, et il y a des gardes-pêche fédéraux qui, eux, interviennent quand il y a des grosses pollutions, du genre comme on a eu dernièrement dans le Med à Bédouin, là-bas, une conduite qui s'est bouchée sur vers la coopérative agricole qui a pollué le Med. C'est des choses. Ou les stations d'exploration, c'est fréquent.
Est-ce que parfois, vous ne rencontrez pas des problèmes qui soient la conséquence du développement de l'urbanisation aussi, qui de plus en plus est gourmand dans le territoire.
Le problème de l'urbanisation, c'est que selon où est situé le permis de construire, s'il est à proximité de la rivière, puisqu'il y a des zones non inondables à proximité de la rivière, bien entendu, les riverains se clôturent. Et comme chaque riverain est propriétaire jusqu'au milieu de la rivière, sur les cours d'eau non navigables.
Ça veut dire que l'accès n'est plus possible ?
Si se clôture, l'accès n'est plus possible. Ben, on a la possibilité, un bout de pêche, mais comme les gens se clôturent pour ne pas être embêtés sur leur propriété, donc ça fait des territoires petit à petit qui disparaissent.
Il n'existe pas alors, comme on le sait, en bord de mer, puisque vous parliez de la pêche en mer, ce qu'on appelle le chemin du douanier, permet de suivre tout le long de la côte pour accéder à la côte.
Non, le seul endroit où il y a un chemin possible, c'est, d'après ce que je sais, une loi qui remonte à Louis XIV, qui en avait assez de payer l'octroi à l'époque de chaque commune. Il a décidé de créer deux types de rivières, les rivières navigables, et dans les rivières navigables, on devait laisser le fameux chemin de halage de chaque côté.
Exactement, oui.
Et les rivières non navigables, les propriétaires jusqu'au milieu de la rivière. Voilà.
Est-ce que le plus gros problème que vous ayez à rencontrer dans l'entretien de nos plans d'eau, de nos rivières, de nos fleuves, etc., ne sont pas, hélas, comme Écolibri est souvent mené à les condamner, les incivilités ?
Ben oui, ça, des incivilités, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est un problème. Et on a beau faire, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Français. Ça serait trop simple.
Hélas, hélas. Mais écoutez, on va essayer d'être un petit peu plus optimiste, là.
Voilà.
Et parlez-nous comment la Fédération et vous-même, association, vous vous engagez pour la gestion de la ressource piscicole.
Alors, pour la gestion de la ressource piscicole, sur la PPMA de Carpentras, nous avons deux réserves. Une dans la Salette, une dans l'Ozon, où c'est qu'on permet des poissons. C'est une réserve, c'est un endroit où il est interdit de pêcher pour permettre la reproduction naturelle et l'augmentation de la densité des truites, qui est contrôlée régulièrement par la Fédération de pêche. Et après, sur le territoire de la commune d'Altaine, nous avons une partie de ruisseau qui nous permet, qu'on appelle des ruisseaux pépinières, qui nous permet de faire grandir des truitelles qu'on met à 4 cm et qu'on récupère quand elles sont autour de 12 et 14 pour les relâcher dans nos ruyères.
Très bien.
Voilà.
J'aime bien cette expression ruisseau pépinière sur le territoire de la pépinière viticole sur laquelle nous habitons, mais je trouve que c'est très joli.
Et après, pour inciter, disons, les jeunes à pêcher, on a créé cette année un parcours enfant pour les moins de 12 ans, où ils peuvent pêcher librement, en toute sécurité, bien entendu sur la surveillance de leurs parents. Et pour les enfants, chaque année, les différentes amicales de la PPMA font de la pêche pour les enfants, réservée aux enfants. Donc nous, ce sera... On en fait une pour la fête d'Altaine-les-Palus et une pour la foire d'automne à Monteux. Et après, à Baume, ils en font aussi, à Mazan aussi. Donc, quand il y a une amicale, un milieu associatif, on essaye de faire quelque chose. Quand il n'y a rien, malheureusement, ça arrive, on ne peut pas faire grand-chose.
Bon, mais je vois quand même que l'objectif du développement et de la promotion de la pêche est toujours pris en compte sérieusement par vos associations et par la fédération. Et je crois que vous avez même prévu des hébergements labellisés pour faire venir des touristes ou des séjours consacrés à la pêche.
Oui, ça, je sais qu'il y en a, et notamment au lac de la Lyonne, là-bas, je sais qu'il y a des cabanes sur l'eau.
Voilà.
Et puis après, il y a le tourisme vert, disons. Je crois qu'à Lille, à l'île sur la Sorgue, il y a des
gîtes ou des hôtels.
Des guides pour la pêche.
Très bien. Alors, il y a un terme qui m'a fait sursauter lorsque je me suis intéressé à votre activité, c'est la pêche électrique. Alors évidemment, vous allez dédramatiser ce mot de pêche électrique expliquer de quoi il s'agit et pourquoi on pratique cette technique.
Alors, la pêche électrique est réalisée par la Fédération de pêche de Vaucluse. Alors, elle est réalisée pour plusieurs causes, pour plusieurs motifs. Premièrement, dans le cadre de sauvetage. Par exemple, si une collectivité décide de faire des travaux sur le cours d'une rivière, on fait ce qu'on appelle une pêche de sauvetage. On récupère entièrement tous les poissons. Alors, le principe de la pêche électrique, c'est un plus et un moins, une anode et une cathode. On met l'anode dans la rivière.
Une batterie, quoi.
Une batterie.
Voilà.
Et quand on a un grand cercle, quand on passe, eh bien, le poisson, il est plus ou moins paralysé par l'onde électrique et il remonte à la surface et on le pêche. Ça, c'est le premier, on récupère le poisson. Ça permet aussi de vérifier l'état de nos rivières au point de vue milieu halieutique, c'est-à-dire les différents types de poissons qu'il y a dans une rivière, leur grosseur, leurs âges, et ainsi de suite. Et après, ça permet aussi de voir, pour récupérer les truitelles, notamment dans les ruisseaux pépinières, un coup, on récupère toutes les truitelles et on enlève les prédateurs éventuels.
Vous avez souvent besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle l'empoisonnement, parce que vous m'aviez peut-être laissé entendre que les variétés diminuent, il y a des problèmes un peu de diminution.
Le problème, c'est que la sorgue est gérée à peu près en trois parties. Il y a la sorgue amont, c'est-à-dire la partie noble qui constitue à peu près à partir de l'île sur la sorgue jusqu'à la résurgence de la sorgue. Là, c'est une partie très noble où c'est qu'il y a une réglementation très très stricte. Une truite par jour et pêche avec hameçon sans ardillon. Après, il y a une deuxième partie de l'île sur la sorgue jusqu'à la D38. Alors la D38, c'est la départementale qui va de Pernes à Saint-Saturnin. Et après, il y a une troisième partie qui est en dessous du D38 jusqu'à la RD952 pour la partie la plus noble. Le RD942, c'est-à-dire la route, la départementale Avignon-Carpentras. Donc, dans la première partie, il y a une reproduction naturelle. Dans la deuxième partie, il y a une reproduction naturelle aussi, mais de moindre importance. Et enfin, dans la troisième partie, celle qui nous concerne, il y a très peu de reproduction. Donc, pour compenser ce manque de reproduction, on est obligé de pratiquer des empoisonnements que l'on fait tous les 15 jours en fonction du budget des amicales.
Et des études ont été faites pour connaître un peu l'origine de cette faiblesse de la reproduction. Mais
c'est-à-dire qu'il y a certainement un problème. Bon, déjà, on a un problème avec le PDK, c'est un virus qui s'est installé et qui tue les truitelles inférieures à 12 cm, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à maturité. Donc, du moment que les poissons n'arrivent plus à maturité, ils ne se reproduisent plus, sachant que lorsqu'une truite fraye, il y a à peu près 80% des œufs qui sont tués, soit mangés par les autres poissons, les cormorants, les martins pêcheurs, enfin tout ce qu'on veut, la pollution aussi.
Et le manque d'oxygénation des rivières avec le réchauffement, non, ça ne joue pas?
Si, on a des problèmes, c'est surtout les cours d'eau où il n'y a pas trop de débit, comme le Brégou, le Med et la Salette. Il commence à y avoir un manque d'oxygénation qui se traduit par la prolifération d'algues.
Eh bien sûr. Bien, nous allons procéder à une seconde interruption pour reprendre un peu notre souffle. Merci, Monsieur le Président, et à tout à l'heure.
Ça se passe boulevard Haussmann à 5h. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la une vague des profondeurs. Pourtant j'ai des amis sans bye-bye, du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la thank you. dans le monde chaque seconde. Des visages tout d'un coup s'inondent. Un revers de la main efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière, c'est l'ultramoderne solitude. Les panoplies, les hangars, les tempos, les harmonies, les guitares. On danse des étés entiers au soleil, mais la musique est mouillée par elle. Pourquoi ce mystère, malgré la chaleur des foules, dans les yeux.
Écoutez les rendez-vous des Colibris avec Michel Baillet.
Eh bien, nous poursuivons notre entretien et avant d'entrer de façon un peu plus précise dans le détail des règlements appliqués, de tout ce qui concerne le contrôle et l'organisation et la protection de la pêche dans notre département, j'aimerais que vous évoquiez avec, pour nos auditeurs, ce qu'est l'existence dans le Rhône. Je sais que ça ne fait pas partie des fleuves concernés, des ruisseaux concernés par vos activités, mais ceci l'urent. Qu'en est-il de ce monstre du Loch Ness ? Est-ce qu'on va concurrencer les Anglais avec ce silure ?
Le silure, il n'y en a pratiquement que dans le Rhône et ceux qui ont été mis dans certains lacs. Notamment du côté d'Aramon, je sais qu'il y en a, il y a des silures. Le silure est un poisson qui est originaire du Danube, si ma mémoire est bonne, et qui peut atteindre les 2,60 m et plus de 300 kg.
Ah, je ne suis pas loin du monstre du Loch Ness alors. Ouais.
Voilà, c'est un prédateur qui mange tout.
C'est un carnassier, donc.
C'est un carnassier, il mange tout. Bon, le problème, c'est qu'en France, sa chair n'est pas appréciée, donc les silures sont pêchées et relâchées. Mais il y a des endroits où le silure est apprécié, c'est un mets très recherché. Enfin, ce qui concerne notre PPMA, pour le moment, il n'y en a pas, parce que ça mange tous les poissons, puisque c'est un carnassier.
Donc il a besoin d'un fleuve, il ne peut pas remonter dans nos ruisseaux et il n'y a pas de risque.
Non, quand ils sont mis dans... Non, il y a une histoire de température. Et puis après, un poisson de 2 mètres dans la sorgue, quand il y a 20 cm, 30 cm d'eau à certains endroits, ce n'est pas évident de nager. Non, et dans les plans d'eau, il est mis par les pêcheurs même, qui les prennent tout petits et qui les mettent dans les plans d'eau, et après ils grossissent. Et...
J'ai l'impression que vous l'appréciez pas trop, ce silure.
Non.
Oui, j'avais bien compris.
Non. Ça fait partie des espèces envahissantes. Il y a ça, il y a les tortues de Californie aussi, qui sont en train de... Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils prennent un aquarium, ils prennent une petite tortue, tant qu'elle est petite, ça va, mais une tortue, ça grossit, et au bout d'un certain temps, elle rentre plus dans l'aquarium, donc il faut la mettre... et on la remet dans la nature. Et puis après, bon, mais ça cause des dégâts aussi.
Bon, il n'y a pas eu pour l'instant d'échappée de la ferme des crocodiles, rassurez-moi.
Ah non. Ah, pas pour le moment.
Bon, tant mieux. Alors, un autre envahisseur quand même, bien différent, mais qui est souvent évoqué par les pêcheurs parce que ça leur pose un gros problème, c'est cette plante, la jussie.
Oui, la jussie qui a envahi les cours
d'eau. Expliquez-nous.
Alors, la jussie, c'est une plante aquatique qui est très jolie. Et elle aussi, la cause principale, c'est les aquariums. On la met dans des aquariums, elle grossit, et puis après un beau jour, les gens, ils en ont assez, ils l'arrachent. Et soit ils la jettent dans la nature, soit ils la jettent dans un cours d'eau. Et il faut savoir que la jussie, c'est une plante envahissante. Un petit bout de 1 cm, ça envahit un fleuve rapidement. C'est pour ça que c'est très très cher pour l'éradiquer, parce qu'il faut faire ça à la main, enlever toutes les racines, récupérer tous les morceaux. C'est pas évident. Et il y a deux types de jussie. Il y a une jussie à grande feuille et une jussie à petite feuille. Voilà. C'est pas évident. Et ça envahit rapidement un plan d'eau, et ainsi de suite.
Et quelles sont les conséquences, alors, pour...
C'est-à-dire que les poissons ne peuvent plus vivre à l'intérieur des cours d'eau. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons, et donc il faut les éradiquer. C'est pas évident.
C'est un manque d'espace naturel pour pouvoir vivre pour les poissons.
Voilà, c'est des plantes aquatiques qui sont emportées et donc ils n'ont plus la place de grandir.
Eh bien, écoutez, je vous écoute, oui.
Oui, mais il y a d'autres envahisseurs qui arrivent, différents types de poissons qui arrivent petit à petit, qui infectent les rivières. Alors, et les petits poissons, ils mangent les œufs. Et s'il n'y a plus d'eux, il n'y a plus de reproduction.
Alors, toutes ces préoccupations que vous venez de nous exprimer, et les risques qu'ils peuvent représenter pour la pratique de la pêche dans nos cours d'eau, je crois qu'il serait intéressant qu'on aille un peu plus précisément dans ce qu'est l'organisation de la pêche, toutes les mesures prises pour assurer la protection, la réglementation, et peut-être aussi, il faut bien utiliser le mot, les sanctions.
Mais oui,
alors, les gardes-pêche, dites-nous, qui sont ces gardes-pêche?
Alors, il y a deux types de gardes-pêche en ce qui concerne le Vaucluse. Il y a les gardes-pêche fédéraux, qui, eux, sont assermentés sur tout le Vaucluse, et les gardes-pêche particuliers de chaque APPMA. C'est-à-dire, chaque APPMA a ses gardes particuliers qui ne sont réglementés que sur le territoire de l'APPMA. Au point de vue sanctions, il y a eu pour 2022 de nouveaux statuts pour les AAPPMA, c'est-à-dire que l'article 34 des statuts permet maintenant, sur décision du conseil d'administration de la PPMA, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suppression du permis de pêche suite à des actes répréhensibles. Et comme maintenant... tous les permis de pêche sont informatisés une fois que le nom est entré dans la bécane. Terminé, il y a ça. Et puis après, il y a des amendes qui sont relativement importantes. De mémoire, une pêche sans permis, c'est 480 euros. Après, il y a des infractions de 280 euros. Le problème qu'il y a, si on va parler un peu chiffres en vitesse, c'est que en 2018, il y avait... La Fédération de pêche a fait 82 procès-verbaux sur 154 infractions. Et en 2021, puisque c'est les derniers chiffres, 173 PV pour 413 infractions, donc constante, qui a eu une augmentation en 3 ans de 100% des infractions. D'où la nécessité d'avoir des gardes-pêche particuliers.
Sur le terrain.
Sur le terrain.
Combien y en a-t-il dans le Vaucluse?
Je crois qu'il y en a une vingtaine de gardes-pêche particuliers.
Ah oui, mais pour un domaine qui est très vaste. Parce que le domaine, tout à l'heure, j'évoquais les 400
kilomètres. Il y a 30 gardes-pêche particuliers d'APPMA, actuellement, et en 2021.
Et alors, ils font des sorties surprises, comme ça, sur les cours
d'eau? Ils font des sorties, ils surveillent, ils font des sorties et ils appliquent la réglementation en vigueur, qui est très, très stricte.
Ils dépendent de quel ministère?
Le ministère de l'Environnement.
Ministère de l'Environnement, très
Je
bien.
Je crois que c'est le ministère de l'Environnement qui gère ça, puisque y a des... le pêche-chasse, tout ça, c'est l'environnement.
Centre de formation? Comment?
Le centre de formation est à la Fédération de pêche de Vaucluse. Il y a un garde fédéral qui est chargé d'assurer la formation selon de deux modules avec des rappels chaque année des variations de la réglementation.
C'est donc une activité à plein temps pour ces gardes-pêche?
Non, pas pour les gardes-pêche. Pour les gardes-pêche fédéraux, oui, c'est une activité à plein temps. Pour les gardes-pêche particuliers, ce sont des bénévoles.
Ah.
Il faut parler un peu du bénévolat bien quand sûr. Même. C'est des bénévoles qui aiment la pêche et qui aiment faire respecter la réglementation. C'est pour ça qu'ils sont devenus une garde-pêche particulier. Donc c'est, en ce qui concerne la PPMA de Carpentras, nous allons avoir, lorsque ils seront formés et assermentés par la préfecture, nous aurons 5 garde-pêche pour l'année prochaine,
Très bien.
2023. De façon à pouvoir faire respecter la réglementation et surprendre les gens qui pêchent plus de quotas de truites que ceux qui est autorisé.
Très bien, très bien. Mais écoutez, Monsieur le Président, on va se faire une petite histoire tous les deux. Supposons que j'arrive du département du Maine-et-Loire et j'avais l'habitude d'aller faire ma petite friture d'ablettes, de goujons, de gardons dans la Loire.
Hein. Oui.
On va évoquer au hasard et j'arrive dans le Vaucluse. J'ai envie de poursuivre mon loisir préféré, qui est la pêche.
Oui.
Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'avoir un permis. Quelle démarche je dois faire? Où vais-je trouver la possibilité d'avoir ce permis? Pour quel type de rivière, etc. Quel prix? Dites-nous tout, de façon à ce que demain matin à 6h, je sois sur les bords de l'Auzon pour entamer ma sortie de pêche.
Alors, en ce qui concerne la vente des permis de pêche... Il faut aller sur le site de la Fédération de pêche de Vaucluse, où c'est qu'est indiqué tous les revendeurs. Bon, nous, en ce qui concerne Carpentras, nous avons M. Fouquet qui vend des permis de pêche. Nous avons l'Office de tourisme de Monteux et la pêche et chasse de Sceaux. Voilà. Voilà, donc nous avons 3 points de vente, en attendant un 4e qui va être conventionné prochainement à Mormaron, puisqu'il y a un lac et qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Voilà.
Il y a différents types de permis, ou c'est le même tarif, ou selon les rivières, ça varie?
Alors, en ce qui concerne le permis de pêche, il y a deux choses. Il y a le permis de pêche pour le département proprement dit, et il y a le permis de pêche interfédéral, c'est-à-dire que les fédérations de pêche départementales se sont regroupées et il y a une intercommunication, enfin une réciprocité entre les différentes fédérations de pêche. Sauf quelques départements, parce qu'il y a toujours des exceptions pour confirmer la pêche, sauf quelques départements qui ne veulent pas en faire partie.
Ah, il y a des isolationnistes.
Voilà, bon,
les pêcheurs.
Même chez les pêcheurs, il y en a qui ne veulent pas, et je suis en train de regarder.
Bon, je retiens de ce que vous venez de me dire. Donc, j'ai quitté mon Maine-et-Loire, je suis en Vaucluse, j'oublie la Loire, et je peux pêcher, donc, avec ce premier permis, sur tous les cours d'eau, rivières et plans d'eau, lacs, du département de Vaucluse.
Voilà, et tous les départements du Vaucluse, je vais vous dire, j'ai retrouvé la carte... Avec donc la carte interfédérale, vous pouvez chercher dans tous les départements, sauf le 48, le 07, le 05, le 73, le 74 et le 39,
bon.
Qui ont des réglementations particulières. Eh
ben, Monsieur le Président, j'espère que nos auditeurs sont aguerris en termes de géographie numérologique, mais ils chercheront, ça leur permettra de poursuivre notre entretien. Bon, bah écoutez, nous sommes dans les derniers instants de notre rendez-vous. Dites-moi, aujourd'hui, optimiste, pessimiste, quels sont les dangers et les préoccupations majeures du président Liados et surtout, quelles sont les raisons de sa confiance pour l'avenir?
Le problème principal actuellement, à mon point de vue, c'est le problème des bénévoles. Il faut savoir que le bénévole est une denrée qui devient de plus en plus rare. Je le constate sur la PPMA de Carpentras, disons. Là, avant, il y avait une amicale sur Aubignan. Elle est en train de disparaître petit à petit parce que nous n'avons plus de bénévoles pour reprendre l'association. Il y avait une association sur Carpentras aussi qui a disparu. C'est dommage parce qu'une amicale, ça permet d'augmenter le nombre de prêcheurs par les animations qu'elles font sur le site. Et c'est regrettable. Voilà.
Donc, mais je sais que vous organisez, la fédération organise parfois des salons, participe à des séances de promotion, etc. Oui, oui. Et vos activités auprès des jeunes ne devraient pas rester sans résultat, je vous le souhaite. Et que demain, eh bien, on retrouve quand même suffisamment de bonne volonté pour assurer la poursuite de vos activités.
J'espère en trouver. Et ce que je peux dire, je l'ai relevé, rien que sur la PPMA, en 2021, nous avions 200 gosses de moins de 12 ans qui pratiquent la pêche, ce qui est quelque chose d'assez formidable. Et il faut maintenir les jeunes, parce qu'il faut savoir que les jeunes, c'est l'avenir.
C'est un élément de confiance, ce résultat-là, bravo. Hein, voilà. Et c'est quand même un succès du bénévolat. Hein,
un succès du bénévolat. Malheureusement, j'ai terminé par un petit mot. Vous savez, quel est l'ennemi du bénévole?
Oh, je crois savoir que c'est un nouveau monstre qu'on aurait pu évoquer, qui a un double nom. Je vous laisse le plaisir de le citer.
C'est le yaka.
Oui, et moi j'y ajouterais le faucon. Hein, donc voilà. C'est vrai. Bon, bah, écoutez, monsieur le Président, nous allons maintenant mettre fin à notre entretien. Je vous remercie très chaleureusement, ça a été très intéressant. On va avoir un mot et une pensée pour tous les pêcheurs de Vaucluse. Oui. On va peut-être pas tous leur faire leur promettre de faire une pêche miraculeuse, mais au moins de pouvoir trouver du bon temps et beaucoup de plaisir dans cette activité.
Du bon temps et beaucoup de plaisir, oui, surtout qu'à ce moment, avec les lâchers réguliers, des gens font relativement de bonnes pêches. Voilà, il faut espérer que ça continue.
Et en ces temps compliqués, où on a beaucoup de raisons d'être préoccupés et inquiets, je crois que la pêche est un excellent remède. Merci, monsieur le Président. Merci à Stéphanie, qui nous a assuré la qualité de la prise de son pour notre entretien. À très bientôt pour un prochain rendez-vous avec Écolibri.
Allez, au revoir.
Michel Baillet vous a présenté les rendez-vous des colibris.